Bonjour à tous. À la une ce matin, les résistants de la Maison Blanche contre Trump, ils ont décidé d'agir dans l'ombre jusqu'à présent, jusqu'à cette tribune incroyable et anonyme publiée cette nuit. Nous serons à Washington dans un instant. L'inexorable hausse des arrêts de travail en France, 17 jours par salarié et par an en moyenne, ça coûte des milliards à la Sécu, radiographie de l'absentéisme dans ce journal. Séminaire gouvernemental hier après une rentrée calamiteuse, du pain béni pour la droite. Nicolas.
On posera la question à Bruno Retailleau, sénateur président du groupe Les Républicains au Sénat. Au micro d'Inter dans 20 minutes, intervenez dès maintenant au 01 45 24 7000.
À la une également, les pilotes de KLM augmentés, mais toujours pas ceux d'Air France. Ils pourraient bien déposer un nouveau préavis de grève. L'Inde, qui va sans doute dépénaliser l'homosexualité aujourd'hui, passible de la prison à vie jusqu'ici. Colette, une application VTC 100% féminine. Et le retour des Bleus champions du monde, vous pouvez ressortir la panoplie Allemagne-France, c'est la toute nouvelle Ligue des Nations.
France Inter.
De plus en plus effarantes, les dernières nouvelles de la Maison-Blanche sous Trump à 2 mois des élections de mi-mandat. Hier, c'était le livre de Bob Woodward qui décrivait une maison de fous. Aujourd'hui, cette tribune explosive parue il y a quelques heures dans le New York Times. Tribune anonyme, écrite par un haut cadre de l'administration Trump. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Florence.
Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Grégory, cette personne se présente comme un résistant de l'intérieur. Il serait plusieurs comme lui à travailler contre Trump dans l'intérêt du pays.
Oui, et que dit celui ou celle qui est présenté par le New York Times comme un haut responsable de l'administration de Trump? Eh bien qu'avec d'autres, il s'est engagé à résister et à faire tout ce qu'il pouvait pour préserver les institutions du pays, tout en contrecarrant les impulsions malencontreuses de Donald Trump. L'auteur de la tribune décrit aussi un président amoral, mesquin, impétueux, inefficace et raconte une présidence marquée par le chaos. Mais les Américains doivent, je cite, être rassurés en sachant qu'il y a aussi des adultes à la Maison Blanche. Ce haut responsable affirme que plusieurs conseillers ont songé à invoquer le 25e amendement de la Constitution américaine pour engager une procédure de destitution de l'actuel président, mais qu'ils ont finalement renoncé pour ne pas créer une crise institutionnelle.
Alors évidemment, Trump est furieux.
Oui, il l'a dit hier soir sur Twitter avec ce message « Trahison » en lettres majuscules. Et quelques minutes plus tard, lors d'une réception organisée à la Maison Blanche avec des shérifs et des policiers.
Ils n'aiment pas Donald Trump et je ne les aime pas non plus, parce que ce sont des gens très malhonnêtes. Donc maintenant, le pathétique New York Times publie un éditorial anonyme. Vous vous rendez compte? Anonyme. Pour moi, ça veut dire lâche. Mais on continue à faire un travail formidable. Nos sondages sont extra. Et devinez quoi? Personne n'arrivera à me battre en 2020 grâce à tout ce qu'on a accompli en même pas 2 ans. Merci à tous.
Voilà, le président exige que le journal révèle le nom de celui qui a écrit ce texte lâche pour des raisons de sécurité nationale. Et à Washington, évidemment, tout le monde veut savoir qui est l'auteur, à quel niveau est-il au sein du pouvoir. Seuls les responsables de la rubrique opinion du journal connaissent l'identité de cette personne. Hier soir, un employé de la Maison Blanche racontait que dans les couloirs de la Maison Blanche, c'est comme un film d'horreur quand soudain on réalise que la menace vient de l'intérieur de la maison.
On peut sans doute anticiper une chasse aux sorcières dans les jours qui viennent. Merci Grégory Phillips en direct de Washington.
Il est 8h04 en France. Le chiffre du jour, Florence, donne la mesure de l'absentéisme dans les entreprises.
17,2 jours d'absence en moyenne pour les salariés du privé, selon le baromètre Eming qui prend le pouls année après année de la santé au travail. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter. Ce chiffre des arrêts de travail, Fabien, est en constante augmentation.
Oui, c'est la troisième année consécutive de hausse. C'est 17,2 jours d'arrêt de travail par an, inclus les arrêts maladie de courte durée, mais aussi les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ça reste donc une moyenne entre des arrêts très courts pour certains et très longs pour d'autres. On retrouve en tête des secteurs les plus touchés, celui de la santé, les cliniques dans le privé, avec beaucoup de manipulations de patients et donc des troubles musculo-squelettiques pour le personnel. Même constat dans l'industrie et partout, Florence, ce sont les femmes avec 50% d'arrêts en plus que les hommes qui sont les plus touchés.
Alors la santé au travail, c'est un problème de société, c'est aussi un problème économique parce que ça coûte très cher à la Sécu.
Effectivement, un peu plus de 10 milliards d'euros par an. Le gouvernement avait lancé l'idée cet été de transférer une partie de ce coût aux entreprises, au moins pour les arrêts de courte durée. Refus catégorique du patronat qui y voit une double peine, une nouvelle charge financière pour les entreprises, en plus de celle que représente déjà l'absentéisme l'absentéisme pour leur activité. Le Premier ministre a depuis cherché à les rassurer. Pas question d'un transfert brutal, c'était ses mots il y a 10 jours. Mais le sujet reste en cette rentrée au cœur des concertations avec les partenaires sociaux. Matignon vient même de commander un rapport spécialement sur l'augmentation des arrêts maladie et les pistes d'évolution du système actuel.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter. La grève chez Air France, elle se profile de nouveau. Un préavis pourrait être déposé dans les jours qui viennent. Les pilotes sont furax, Philippe Lefebvre. Ils viennent d'apprendre que leurs collègues de KLM avaient obtenu de fortes hausses de salaire sans un seul jour de grève.
Oui, les pilotes néerlandais avaient simplement menacé de se mettre en grève et après l'intervention d'un médiateur, eh bien, ils ont obtenu finalement des hausses significatives de salaire, plus 9,4% pour les pilotes de long courrier et plus 13,45% pour les pilotes de moyen courrier, avec de surcroît la possibilité de transformer une partie de cette augmentation en jours de congé. Alors du côté des syndicats des pilotes d'Air France, qui après 15 jours de grève au printemps dernier n'avaient pas obtenu l'augmentation de 5,1% qu'ils exigeaient, c'est l'incompréhension. Grégoire Aplincourt est le président du syndicat des pilotes d'Air France.
Nos collègues de KLM ont obtenu très exactement ce que nous demandons aujourd'hui. Je suis très content que nos collègues de KLM aient des relations plus saines et des négociations plus simples avec leur direction. Je souhaite juste que la direction d'Air France revienne un petit peu à la raison et reprenne des négociations saines avec ses pilotes pour arriver à trouver des solutions à des conflits qui ne devraient même pas exister.
Du coup, vendredi, l'intersyndicale des personnels de la compagnie nationale devrait une nouvelle fois se réunir et pourrait annoncer le dépôt d'un nouveau préavis de grève avant la fin du mois.
Une battle, comme on dit chez les rappeurs, une battle au tribunal. Aujourd'hui, Booba et Caris passeront des points aux mots jugés à Créteil après la bagarre générale du mois dernier à l'aéroport d'Orly. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Jean-Claude Roman demande sa remise en liberté. C'est une information de France Bleu Berry. Roman qui avait inspiré L'Adversaire à Emmanuel Carrère, l'histoire de cet homme qui finit par tuer toute sa famille après avoir fait croire qu'il était médecin pendant presque 20 ans. Il avait été condamné à la perpétuité en 1996. Il est libérable depuis 3 ans.
Quand les signes sont là, Florence, mais qu'on ne les voit pas.
La Société française de cardiologie s'alarme après un sondage sur 1000 patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque grave. Elle s'est aperçue qu'un patient sur 3 présentait des signes évocateurs depuis au moins 2 mois, des symptômes qui auraient dû les alerter, Véronique Julien.
EPOF, c'est l'acronyme des symptômes à ne pas négliger. E comme essoufflement, P comme prise de poids, O pour œdème, un gonflement des pieds et des jambes, et F comme fatigue intense. Avoir au moins 2 de ces symptômes doit mettre en alerte, a fortiori si on a les 4 à la fois. En cas d'œdème, on pense souvent à un problème veineux, trop rarement à une pathologie cardiaque, c'est un tort. Quant à l'essoufflement, il ne doit jamais être négligé, même si c'est le seul symptôme. Le docteur Florence Beauvais est cardiologue à l'hôpital parisien Lariboisière.
On peut considérer que quand on n'arrive pas à monter plus de 2 étages sans s'arrêter, ça n'est pas normal. Ça n'est pas uniquement le fait d'être sédentaire et de ne pas faire suffisamment d'exercice physique. Donc si on a un essoufflement, une prise de poids de 3 à 4 kilos en une semaine, l'apparition d'œdème des membres inférieurs qui prennent l'empreinte au moins de la chaussette, mais si ce n'est du pouce quand on appuie, et une fatigue plus intense, il faut être alerté, ça peut être le cœur.
Pris en charge à temps, les patients peuvent être soignés pour réduire les symptômes, sinon ils risquent l'œdème pulmonaire et la mort subite. L'insuffisance cardiaque, c'est 70 000 morts par an en France, un décès toutes les 7 minutes.
Voilà, ces symptômes qui doivent nous alerter sont à retrouver sur franceinter.fr.
À l'étranger, une journée historique pour l'égalité en Inde.
La dépénalisation de l'homosexualité devrait être annoncée par la Cour suprême, passible jusque-là de la prison à vie, Sébastien Sabiron.
En 2001, Arif Jaffar est accusé de comploter pour promouvoir l'homosexualité. Avec 3 collègues de son association LGBT, il est incarcéré pendant 50 jours.
Au début, pendant presque 10 jours, ils nous ont empêchés de boire de l'eau, ils nous torturaient, ils nous battaient tous les jours. La police racontait qu'on avait gagné beaucoup d'argent en prostituant des jeunes garçons. Donc les prisonniers nous battaient pour avoir cet argent et les gardiens nous battaient car nous sommes homosexuels.
L'article 377 du Code pénal indien prohibe tout rapport charnel contre nature. Les associations l'estiment contraire à la Constitution. Sukhbip dirige le web magazine Galaxy.
Cette loi ne vise pas spécifiquement les homosexuels, mais elle a été largement utilisée contre la communauté LGBT. C'est un outil très commode dans les mains de la police pour harceler la communauté, pour l'intimider, la faire chanter, pour lui extorquer de l'argent, ce genre de choses.
Si être gay n'est plus un motif d'emprisonnement, la loi induit toujours une discrimination de fait, estime Tripti Tandon, avocate de l'une des parties civiles.
Normalement, une personne qui subit un viol peut aller voir la police et déposer plainte. Les personnes gays ne peuvent pas le faire. La crainte, c'est que dans la minute où vous déposez plainte, la police vous tourne le dos et dise « vous êtes le criminel ».
Aujourd'hui, la communauté LGBT est plutôt confiante quant au jugement de la Cour suprême. Une première étape, dit-elle, avant d'autres combats contre les discriminations.
Le Japon, de nouveau frappé par la nature après le typhon Jebi hier dans l'ouest, un violent séisme a secoué l'île d'Hokkaido cette nuit au nord de 6,7 sur l'échelle de Richter. Il a provoqué des glissements de terrain, 9 morts et les médias parlent d'une quarantaine de disparus. Et puis toujours à l'étranger, ce nouveau sommet inter-Corée programmé du 18 au 20 septembre, Kim Jong-un et son homologue sud-coréen réunis pour la troisième fois pour discuter du désarmement nucléaire de la péninsule. Quand les femmes veulent être conduites par des femmes, c'est le parti pris d'une nouvelle application de VTC 100% féminin, lancée à partir du 12 septembre, d'abord dans l'ouest parisien pour satisfaire une clientèle de femmes. Donc Colette veut aussi féminiser la profession des chauffeurs, Béatrice Duguay.
Yveline est justement chauffeur VTC depuis 2 ans. Elle travaille avec 4 applications et probablement une 5e sous peu, puisque Colette assure un honnête partage de la course à ses yeux, autant qu'elle répond à un besoin.
Déjà, dès que je prends une femme, elle est contente de me voir, parce qu'il y a très peu de femmes dans le métier, donc les femmes sont contentes de voir une femme.
Ça les rassure.
Parce que parfois, se retrouver le soir dans un VTC avec un chauffeur peut se révéler un peu lourd. Valérie Furcage, cofondatrice de la nouvelle application, peut en témoigner.
Il m'est arrivé, moi personnellement, en tant qu'utilisatrice de VTC, de tomber sur des conducteurs pas très délicats, voire parfois intrusifs dans leurs questions, sans parler d'agression, mais un gros sentiment de malaise parfois.
MeToo est passé par là, bien sûr. Pourtant, ça n'est pas la première motivation des créateurs de Colette.
Sur les 100% de conducteurs VTC en France,
Laurent Cadoche, cofondateur de l'application.
Il y a 95% d'hommes et qu'il y a 5% donc de femmes, et qu'il y a une grande injustice et un grand déséquilibre.
Tout l'intérêt de notre application, c'est de susciter des vocations dans un domaine qui offre aux femmes la possibilité de créer leur entreprise, de pouvoir s'organiser si elles ont une famille. Le tout est de créer de bonnes conditions de travail et ça, c'est notre objectif.
Avec une centaine de femmes chauffeurs, Colette veut atteindre 3000 courses dès le premier mois pour pouvoir ensuite étendre la proposition à l'ensemble de la région parisienne.
Et vous pourrez appeler Colette, Nicolas, mais seulement si vous êtes accompagné d'une femme. Paris, où un élu demande l'interdiction des locations par Airbnb dans les 4 arrondissements du centre de Paris pour contrer l'explosion des locations illégales et le manque des logements. Si on ne fait rien dans les quartiers du Louvre ou de l'Opéra, il n'y aura bientôt plus d'habitants, comme sur l'île Saint-Louis, explique Yann Brossa aux Parisiens aujourd'hui en France et l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo.
Et puis l'écho du monde à Perpignan pour le festival Visa pour l'image.
Le photojournalisme pour raconter la planète, et parmi les milliers de clichés remarquables cette année, c'est 2 expositions saisissantes, Alexandra Akoun, sur les désastre écologique.
On a d'abord du mal à y croire. On voit bien sur la photo des gens traverser un pont, sauf qu'en dessous, pas trace d'un cours d'eau, mais à perte de vue des déchets. Bienvenue à Dhaka, capitale du Bangladesh, où explosions démographiques et usines ont achevé de souiller toutes les rivières, sujet central de l'exposition du Belge Gaël Turin.
Il y a une absence totale de considération environnementale. Et puis l'autre problème, évidemment, c'est la présence de toutes ces industries polluantes qui sont installées en plein cœur de la ville et pour lesquelles il n'y a absolument aucune restriction, une absence totale de gestion des déchets. Il faudrait que ça vienne des pouvoirs publics, mais il règne une corruption dingue. Alors là, on est dans un cocktail mortel.
Plan plus large chez le français Samuel Bollendorff, un tour du monde des lieux contaminés, des histoires dans des pays pas si étrangers aux nôtres, c'est encore plus glaçant. Aux États-Unis notamment, Monsanto et ses perturbateurs endocriniens ont transformé Anniston dans l'Alabama en ville fantôme.
Pendant des décennies, ils ont produit des PCB en déversant leurs fonds de cuve dans la rivière de cette petite ville de 20 000 habitants. Et aujourd'hui, encore, on trouve des femmes qui font des enfants avec 12 doigts. Les PCB, on en retrouve jusqu'en Arctique et ils sont là pour des siècles.
Et quel que soit le pays, le photographe pointe à chaque fois le poids des lobbies, le manque de courage politique, des thématiques furieusement d'actualité. Perpignan, Alexandra Akoun, France Inter.
Enfin, ressortez vos maillots et vos drapeaux. C'est le retour des Bleus, champions du monde à Munich ce soir, face à d'autres champions, les Allemands éliminés en phase de poule, on s'en souvient, au dernier mondial, pour le premier match de la nouvelle Ligue des Nations qui régit désormais les matchs amicaux. Alors, sur un nuage et sur le terrain, les stars de l'attaque française, Mbappé, Griezmann, et le défenseur, auteur du plus beau but de la Coupe du Monde, j'ai nommé Benjamin Pavard, qui joue en Allemagne depuis 2 ans, Guillaume Batin.
Respecté l'an dernier pour sa saison impeccable avec Stuttgart, devenu champion du monde cet été, il a atteint un autre statut, celui de rockstar dans son club. 60 000 supporters l'ont fait la fête pour la reprise de la Bundesliga et on s'amuse à chanter en français la chanson née pendant la Coupe du Monde. Christophe Bauduf est journaliste sportif, correspondant de l'agence France Presse en Allemagne.
Les étrangers, pour qu'on parle d'eux, il faut qu'ils fassent très fort. L'année dernière, Pavard était un bon, mais c'était juste un joueur de Stuttgart, une équipe de milieu de tableau. Cette année, on le regarde, on parle de lui. Clairement, être champion du monde, ça vous donne un statut complètement différent.
Éliminé très tôt en Russie, l'équipe allemande a montré de nombreuses faiblesses, notamment en défense. Et un jeune joueur du niveau de Benjamin Pavard a forcément attiré l'attention de Joachim Löw, le sélectionneur allemand.
Il est bon en 1 contre 1, il est bon de la tête, c'est un excellent défenseur. Et quand il s'agit de lancer les attaques, il est performant. De nombreux clubs s'intéressent à lui et il a une grande marge de progression.
Le public bavarois réservera probablement un accueil un peu particulier ce soir aux joueurs du Bad Württemberg. Malgré son démenti, Benjamin Pavard n'a pas signé au Bayern Munich, pas encore. Le champion d'Allemagne en titre en a fait sa priorité. À Munich, Guillaume Batin, France Inter.
Et même quand on est champion du monde, prière de garder ses nerfs sur le terrain sous peine de sanctions. Sanctions contre Kylian Mbappé qui a poussé un adversaire en Ligue 1 dimanche. 3 matchs de suspension avec le PSG, ce qui ne l'empêchera pas de jouer ce soir à Munich avec les Bleus.
Merci Florence Paracuelos.